vonat indul Nyíregyháza állomásra, jobbra a negyedik vágányról. Kérjük a beszállást
fejezzék
be, és a személykocsik ajtajait csukják be.
Grand reportage.
Kérjük a vágány mellett vigyázzanak.
Les Ukrainiens ne sont pas des Syriens. En 2015, la Hongrie de Viktor Orbán avait fermé ses frontières aux réfugiés syriens. Cette fois, elle accepte ses voisins ukrainiens qui fuient la guerre et la violence. Toutefois, la Hongrie ne propose que peu de solutions d'accueil sur le long terme et reste une étape transitoire pour ces réfugiés ukrainiens qui choisissent, pour la plupart, de poursuivre leur route vers d'autres pays européens. Guerre en Ukraine, quand la Hongrie de Viktor Orbán s'ouvre aux réfugiés, c'est un grand reportage de Daniel Vallée.
Nous sommes dans la petite gare de Zaoni, dans le nord-est de la Hongrie. La frontière ukrainienne est toute proche et c'est ici que débarquent, depuis le début de la guerre, les réfugiés qui ont choisi de passer par la Hongrie pour fuir les combats. Des femmes et des enfants, épuisés, l'air hagard, chargés de lourdes valises et de sacs à dos. Une fois passé le hall de la gare, les réfugiés se retrouvent à l'intérieur d'une tente chauffée où ils peuvent boire un café et se restaurer.
Je m'appelle Natalia, j'ai 42 ans. Je suis venue avec ma fille Nastia et mon petit-fils Maxime. Il a tout juste un an. Et puis il y a aussi mon fils Ilia qui a 12 ans. Nous sommes de Slaviansk dans le Donbass. Nous sommes partis il y a 3 jours. Mon mari et mon gendre sont restés en Ukraine car ils n'ont pas le droit de partir. L'Ukraine a besoin de soldats, c'est normal. Nous ne savons pas encore s'ils vont se battre. Pour l'instant, ils sont à la maison et ils attendent.
À Slaviansk, Natalia travaillait dans une usine de métallurgie. Lorsque la guerre a éclaté, elle a cru pouvoir rester chez elle, mais les combats se sont rapprochés et avec sa fille, son fils et son petit-fils, elle a finalement décidé de partir.
Les autorités nous ont demandé de partir, de quitter la région parce que les combats devenaient de plus en plus durs. Et puis il n'y a plus de travail, on n'a plus rien pour vivre. Les magasins sont vides, il n'y a plus de médicaments. J'étais inquiète aussi pour mon fils. À chaque fois qu'il y avait un bombardement, on devait aller à la cave, c'était terrifiant. On entendait les roquettes qui passaient au-dessus de notre immeuble. Et maintenant, mon fils, il est traumatisé. Il tremble la nuit, ce n'est pas normal.
De Slaviansk, Natalia, Nastia et leurs enfants ont dû partir à Kramatorsk, où ils ont pris un train d'évacuation. C'est là, dans la gare de Kramatorsk, quelques jours plus tard, que des dizaines de civils ont été tués par un missile russe.
Il y avait énormément de gens, surtout des mères et des enfants, mais aussi des personnes handicapées. Dans notre compartiment, on était 7. Le train était propre, mais on était tous collés les uns aux autres. On est arrivé à Lviv, de Lviv, on est allé à Tchop, et de Tchop, on est arrivé ici. Au total, ça nous a pris 3 jours.
Comme des dizaines de milliers de réfugiés avant elle, Natalia est accueillie non pas par les autorités hongroises, quasiment absentes de la gare, mais par des ONG qui se relaient nuit et jour, et par les habitants de Zaoni qui se sont organisés dès le début de la guerre. Laszlo Elmechi est le maire de la petite ville frontalière.
Le 24 février au matin, lorsque nous avons appris que la guerre avait éclaté, nous avons installé un abri dans le centre culturel pour 200 personnes. Le soir même, la salle était pleine. Le premier jour, j'ai mis un message sur Facebook pour demander de l'aide. Et en quelques heures, j'ai reçu 200 matelas et toutes sortes de choses. La réponse des habitants a été phénoménale. Et je n'ai pas entendu un seul commentaire négatif sur les réfugiés, même pas sur les réseaux sociaux. Pourtant, au plus fort de la crise, nous recevions 2000 réfugiés par jour. C'est la moitié de la population de la ville.
En
Au total, plus de 100 000 réfugiés sont passés par Zaonie depuis le début de la guerre. Les réfugiés ne restent parfois que quelques heures, quelques jours tout au plus, avant de repartir pour Budapest. La prochaine étape se trouve en effet dans la capitale hongroise, et plus précisément pour la plupart des réfugiés, dans un centre d'accueil mis en place spécialement par les autorités. Ici, les réfugiés sont pris en charge par différentes ONG qui leur proposent toutes sortes de services et de conseils.
Je m'appelle Chaba Sabo. Je suis employé de Caritas Hongrie. Et je travaille ici dans l'accueil des réfugiés depuis le début.
Alors les réfugiés arrivent par là?
Oui. Les réfugiés entrent ici. En entrant, chacun d'eux reçoit un petit ticket avec lequel ils ont le droit de remplir un sac en plastique avec tous les produits ce dont ils ont besoin.
Et alors là-bas, c'est pas votre organisation, mais ils peuvent trouver des cartes de téléphone.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service dans ce centre d'accueil?
Par exemple, on a les représentants de toutes les autorités ici, de la police, de l'autorité de migration, et puis aussi des organisations non gouvernementales qui aident aux réfugiés à organiser le transport et le logement. Et puis il y a aussi un bureau du chemin de fer où les réfugiés peuvent recevoir leurs billets de train qui sont gratuits dans la majorité des pays d'Europe.
Le contraste est saisissant entre l'accueil des réfugiés ukrainiens aujourd'hui et le traitement réservé par la Hongrie en 2015 aux réfugiés du Moyen-Orient. Le dirigeant hongrois Viktor Orban avait alors érigé une barrière de barbelés à la frontière avec la Serbie et refusé catégoriquement d'accueillir le moindre de ces réfugiés. 7 ans plus tard, le changement de politique et de discours à l'égard des réfugiés ukrainiens est salué par les ONG hongroises et accueilli avec soulagement par le HCR, comme nous l'a confié Erno Simon, le porte-parole en Hongrie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
We have always advocated for this sort of a...
Nous avons toujours prôné cette réponse en cas de crise majeure et d'afflux massif de réfugiés. Tout comme en Pologne, en Slovaquie, en Moldavie, la Hongrie a réagi par une vague de solidarité et de compassion sans précédent. C'est vrai qu'en 2015, il y a 7 ans, nous aurions aimé que la Hongrie réagisse de la même façon, car les réfugiés à cette époque fuyaient pour échapper à la guerre et à la violence, comme les Ukrainiens. Aujourd'hui en tout cas, la Hongrie a pris la bonne décision en prenant toutes les mesures nécessaires pour que la frontière reste ouverte et pour que les réfugiés ukrainiens soient accueillis et traités avec respect.
Du côté du gouvernement hongrois, pas question de reconnaître un quelconque changement de politique, car le gouvernement fait la distinction entre ceux qu'il considère comme de véritables réfugiés de guerre et ceux qu'ils voient comme des migrants économiques. Zoltán Kovács est le porte-parole du gouvernement hongrois.
Nous avons toujours affirmé que ceux qui viennent à notre frontière méridionale avec la Serbie ne sont pas des réfugiés, mais des migrants, parce qu'avant d'arriver chez nous, ils ont traversé 6, 7, 10 pays. En outre, ils ne respectent pas les règles, ils n'ont pas de papier d'identité, et nous ne savons même pas d'où ils viennent. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne viennent pas à cause de la guerre, mais parce qu'ils espèrent une vie meilleure.
Cette distinction entre le bon réfugié ukrainien et le mauvais migrant venu du Moyen-Orient ou d'Afrique suscite la critique des ONG hongroises qui, depuis des années, se battent contre le démantèlement de la politique d'asile en Hongrie. András Lederer travaille sur la question des réfugiés au sein du comité Helsinki de Hongrie.
Toute personne venue d'Ukraine a le droit d'entrer en Hongrie, mais parallèlement, des expulsions collectives et des refoulements violents ont lieu tous les jours à la frontière avec la Serbie. Si vous allez sur le site internet de la police hongroise aujourd'hui, vous allez voir 2 articles l'un à côté de l'autre. Le premier dit que la Hongrie est venue en aide aux réfugiés ukrainiens qui fuyaient la guerre. Et le second se félicite du nombre de migrants illégaux expulsés vers la Serbie. Ces deux réalités sont présentes non seulement sur le terrain, mais aussi dans la communication officielle des autorités. Je trouve cela assez stupéfiant.
Autre reproche formulé à l'encontre des autorités hongroises, le manque de moyens déployés pour accueillir les réfugiés sur le long terme. Car la Hongrie n'est qu'un pays de transition pour les réfugiés ukrainiens. La plupart d'entre eux n'y passent que quelques jours avant de partir vers d'autres destinations. Très peu décident de rester et de demander la protection temporaire à laquelle ils ont droit.
I just checked the latest numbers. According to the Hungarian police,
j'ai regardé les derniers chiffres. D'après la police hongroise, plus de 630 000 personnes sont arrivées en Hongrie depuis le début de la guerre et moins de 9 000 ont demandé la protection temporaire. La différence entre ces deux chiffres est énorme et on ne peut écarter la responsabilité des autorités.
Mais les autorités hongroises expliquent que les réfugiés ukrainiens ne font que passer par la Hongrie, qu'ils veulent en réalité aller dans d'autres pays parce qu'ils ne parlent pas hongrois, parce qu'ils ont des amis, de la famille ailleurs en Europe.
Il y en a qui ont l'intention d'aller ailleurs, c'est certain. Mais nous allons dans les centres d'accueil tous les jours et nous parlons à des réfugiés qui n'ont à aucun moment été informés de la possibilité d'obtenir cette protection temporaire. Et même lorsqu'ils sont informés et qu'ils souhaitent demander cette protection, on se rend compte qu'il est très difficile de le faire. Contrairement à la Slovaquie, où on peut le faire sur Internet, ou en Pologne, où les réfugiés ukrainiens obtiennent quasiment automatiquement la protection.
Or in Poland, where you get it practically automatically. I think there is a lack of political will.
Je pense qu'il y a un manque de volonté politique et aussi un manque de ressources humaines et matérielles pour gérer cette crise. Il n'y a plus d'infrastructures ni de centres d'accueil de long terme. C'est l'une des conséquences de la destruction de notre système d'accueil et de protection.
One of the consequences of the destruction of the protection sphere.
De fait, le gouvernement hongrois a délégué l'accueil des réfugiés aux ONG et aux autorités locales, principalement les municipalités. Et il a tout fait pour que les Ukrainiens arrivant à Budapest puissent aussitôt en repartir par avion ou par le rail. Le centre d'accueil mis en place dans la capitale hongroise ressemble d'ailleurs beaucoup plus à un hall de gare qu'à un lieu d'hébergement. Des panneaux indiquent les horaires des trains et des avions à destination des pays européens et des navettes sont organisées à intervalles réguliers vers les gares et vers l'aéroport de Budapest. Sur les centaines de milliers de réfugiés venus d'Ukraine, une catégorie est cependant encouragée à rester. Il s'agit des Ukrainiens de Transcarpathie, cette région située juste de l'autre côté de la frontière et qui appartenait à la Hongrie jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les habitants de cette région parlent le hongrois et ils ont très souvent la double nationalité.
Je m'appelle Rozsika, j'ai 29 ans et je suis venue avec mes trois enfants, Jussika, Ricardo et Marcus. Je suis partie d'Ukraine le 26 février avec ma sœur qui a trois enfants également. Bien sûr, nous avons eu peur de la guerre, mais pas seulement. Nous avons vu les gens faire leurs valises et faire le plein d'essence. Et puis, cela faisait un moment que nous pensions nous installer en Hongrie. Alors, nous sommes partis.
À Budapest, Rozsika a rejoint son mari qui se trouvait en Hongrie depuis plusieurs semaines. Comme de nombreux habitants de Transcarpathie, cet ouvrier du bâtiment passait régulièrement la frontière pour aller chercher du travail. Lorsque la guerre a éclaté, il se trouvait en Hongrie et a décidé de ne pas rentrer. C'est donc sa femme et ses enfants qui ont dû le rejoindre.
Si nous devions rentrer en Ukraine, il y aurait un risque qu'ils soient obligés de se battre. Nous avons une maison là-bas, mais les hommes sont enrôlés dans l'armée et il y a la guerre. Alors si je dois choisir entre ma maison et mon mari, eh bien je choisis mon mari. Si la guerre se termine, nous retournerons en Ukraine. Mais sinon, on essaiera de trouver un logement ici, un travail et une école pour les enfants.
Bonjour.
Bonjour.
Katia.
Nous sommes à présent dans une maison de la banlieue de Budapest, à 45 minutes en voiture de la capitale hongroise, non loin de l'aéroport. Katia Bourachaud est franco-hongroise et avec son mari et ses deux enfants, elle accueille depuis le début de la guerre des réfugiés ukrainiens.
Donc tout est à l'étage. C'était une maison, enfin c'est ce qu'on appelle les chaladihas en gris, qui sont des maisons familiales, qui étaient de grandes maisons avec deux appartements, ce qui permettait d'avoir une génération à un étage, l'autre génération à l'étage, ce qui permettait aux enfants de vivre avec leurs parents. Donc là, il y a le salon. Donc on a laissé plein de jouets à disposition parce qu'on a beaucoup d'enfants qui viennent. Là, on a des piles de serviettes, on a des piles de draps, Il y en a sur les serviettes, il y en a peut-être un cinquième qui était à moi, le reste c'est des dons. Ici, donc c'est la salle de bain. On a des douches et des lingettes, on a des brosses à dents en plus, du dentifrice en plus, des serviettes hygiéniques et des tampons en plus. C'est déjà arrivé que bon bah on n'avait rien et puis ma Gréchonnette ou un autre contact ou une autre association nous appelle à 8h pour nous dire bon bah voilà, vous avez un groupe de 10 personnes qui sera là dans une heure chez vous. Donc du coup, ben, on est toujours prêt, le cas échéant.
Dans le salon, encombré de valises et de jouets pour les enfants, nous rencontrons Svetlana. Attablée devant une tasse de thé brûlant, la jeune femme nous raconte son périple pour fuir la guerre et les combats. Avant le conflit, elle travaillait dans un hôpital qui a été détruit par les bombardements. Svetlana vivait à Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, l'une des villes que l'armée russe a tenté de prendre au début de l'offensive.
Every day was bombing. Some building was destroyed.
Il y avait des bombardements tous les jours quand on est parti. C'était vraiment horrible. Pendant deux jours sans interruption, je suis restée à la cave. On ne pouvait même pas remonter pour faire la cuisine. C'était vraiment terrible. Tous les jours, des bombes, des destructions. Plusieurs de mes amis sont morts.
Some of my friends died. Was five cars. We start to leave the city.
Pour partir, on a formé un convoi avec 5 voitures pour prendre le moins de risques possible. C'était très dangereux, nous ne savions pas par quelle route passer et nous savions que des voitures avaient été détruites en essayant de quitter la ville. Heureusement, dans la voiture de tête, il y avait un de mes amis qui était dans l'armée et qui avait gardé des contacts. Alors à intervalles réguliers, il demandait par où passer. Je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai vu pendant ce voyage. Ce trajet, on l'aurait fait en 8 heures avant la guerre. Nous a fallu 5 jours pour arriver à la frontière.
Usually it's like 8 hours, but we was gone 5 days.
Ici, Svetlana fait figure d'exception, car cela fait des semaines qu'elle est en Hongrie dans l'attente d'un visa pour le Royaume-Uni. La plupart des réfugiés qui viennent chez Katia ne restent qu'une nuit ou deux, le temps de se reposer et d'organiser la suite de leur voyage.
Svetlana, you can tell her that we have got one train leaving at 7:40.
Ce soir-là, Katia essaye de trouver un billet de train pour une réfugiée venue d'Odessa. Avec son fils, elle veut rejoindre la Suisse par le train, si possible le soir même. C'est le mari de Katia qui se chargera de les emmener en voiture jusqu'à la gare centrale de Budapest.
Les gens qui passent ici, je ne les laisse pas partir de chez moi sans avoir l'assurance qu'ils vont avoir quelque chose derrière. Ben, je parlais tout à l'heure d'une grand-mère avec 2 mamans et 6 enfants. Elles sont allées en Pologne, je leur ai envoyé 2 messages et puis j'avais pas de réponse, donc je m'inquiétais un petit peu. Et au 3e message, elles m'ont dit que ça se passait pas très bien. Du coup, je leur ai dit qu'il fallait contacter une association d'aide. Et du coup, ben, elles ont appelé l'association, les a sorties de là. Mais les gens qui partent de chez moi, je les contacte tous pour savoir s'ils vont bien. Et je ne les laisse pas partir sans qu'ils aient un plan B.
Et depuis le début, vous avez reçu combien de réfugiés ?
Et avec les 3 qui viennent de partir, 100.
Et vous allez continuer combien de temps comme ça ?
Jusqu'à ce qu'on en ait besoin, ou jusqu'à ce que les enfants disent stop.
Parce que, vos enfants ?
Voilà, nos enfants. On essaye de garder 24 heures par semaine où on ferme l'hébergement d'urgence pour garder du temps juste pour les enfants et se retrouver entre nous en famille, se reposer un petit peu. Et voilà, donc tant que les enfants me disent que c'est bon, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec eux. Tant qu'ils nous disent que c'est bon, ben voilà. Ma fille, la semaine dernière, la grande de 9 ans, a discuté avec son ancienne maîtresse de maternelle quand je suis allée chercher la petite. Et donc la maîtresse lui a dit, alors, c'est pas trop difficile, les réfugiés, etc. Et ma fille lui a répondu, ben non, en fait, ça va, papa et maman n'ont pas trop de temps, mais ça va. Mais en même temps, on aide tellement de gens. Et la maîtresse lui a dit, mais tu voudrais pas que papa et maman y ferment et que maman elle aide autrement. Et elle a regardé, elle fait, mais si on ferme la maison, les gens, ils vont aller où? Rien que d'en parler, ça... Donc tant que eux, ça va, moi, ça va. Après, on verra.
Guerre en Ukraine, quand la Hongrie de Viktor Orban s'ouvre aux réfugiés. Un grand reportage de Daniel Vallot, réalisation Pauline Leduc.